VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Ici Abidjan, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, le gouvernement rejette catégoriquement les accusations d'Amnesty International qui accuse l'armée camerounaise dans un rapport de torture ayant entraîné la mort de dizaines de personnes dans le cadre de sa lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Le ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakari, estime que les soldats camerounais sont bien formés en matière de respect des droits de l'homme. On l'écoute.
Boko Haram aujourd'hui a complètement désorganisé notre économie. À l'heure où je vous parle, nous avons plus de 1600 civils tués, plus de 250 militaires qui sont abattus par Boko Haram. Évidemment, peut-être ça n'intéresse pas Amnesty International, mais le président de notre pays qui rencontre à son peuple de la manière dont il gère cette guerre, a présent à l'esprit toutes les souffrances, toutes les difficultés dans lesquelles cette horde de bandits de grand chemin nous a précipités. Je reproche également à Amnesty International de ne pas soumettre à une contradiction leur rapport, ou en fin de semaine ou la semaine prochaine, je donnerai une conférence de presse au cours de laquelle nous réunirons tous les éléments, toutes les pièces à conviction qui balayeront donc du revers de la main toutes ces accusations qui sont fantaisistes, mal fondées et dont l'objet est probablement de jeter du discrédit sur une armée redoutable par son efficacité et qui protège l'intégrité territoriale de notre pays.
Issa Tchiroma Bakari, ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement. Crise au Burundi, le président burundais Pierre Nkurunziza a rencontré son homologue tanzanien John Magufuli à Ngara en Tanzanie. C'est la première visite du président Nkurunziza à l'étranger en plus de deux ans. Ce tête-à-tête jeudi visait à relancer le dialogue de sortie de crise au Burundi, d'après Makocha Tembele, secrétaire particulier du facilitateur Benjamin Kapa. À l'issue de la rencontre, rien n'a filtré, sauf que les deux présidents ont appelé les réfugiés burundais à rentrer chez eux. Pour réaction, Eric Manirakiza a joint à Kigali au Rwanda le secrétaire général du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD, François Nyamoya.
Je suppose que ce qu'ils ont dit apportait beaucoup plus sur le processus du dialogue. Mais c'est bien évident que face au public, il n'est pas dire de quoi ils ont parlé. Mais c'est certain que c'est ça qui a occupé plus de temps. Quant au rapatriement des réfugiés, je fais une nuance parce que il y a eu une succession de discours. D'abord celui du président Nkurunziza qui disait qu'il y avait la paix et que les Burundais pouvaient rentrer. Et puis après a suivi celui du président Magufuli. Évidemment, par courtoisie, le président Magufuli ne pouvait pas dire non, monsieur le président ne vous dit pas la vérité, il n'y a pas la paix chez vous. Il ne pouvait que dire dans le même sens, par courtoisie et par diplomatie. Et par ailleurs, le président Magufuli insistait, je crois, par deux fois en disant « Je ne vous chasse pas, je ne vous chasse pas ». Aucun réfugié burundais ne devrait avoir peur en croyant que demain il sera chassé ou qu'on va le rapatrier de force. Je ne crois pas. Parce que on ne peut pas à la fois qu'on accorde la nationalité et en même temps qu'on refoule les gens.
Vous avez proposé une feuille de route. Quels sont les points saillants que vous proposez pour sortir de la crise?
Ça a été fait dans un souci de gain de temps, et d'efficience et d'efficacité. Juste, il faut identifier exactement quelle est la nature de la crise burundaise. C'est non seulement la conséquence de la violation de l'accord d'Arusha de la Constitution, mais c'est surtout l'absence d'élections crédibles qui sont conformes aux standards internationaux, et cela depuis 2010. Et dans notre feuille de route, justement, on insiste sur ça, on dit que la discussion doit porter sur des élections crédibles. Il faut que ce soit des élections qui soient organisées, mais qui ne le soient pas par Nkurunziza et son régime, par d'autres acteurs, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'EAC, etc. Des gens tout à fait autonome en dehors d'eux. Parce que c'est ça le nœud du problème. Tous les autres problèmes ne sont que des problèmes collatéraux. Nous avons proposé une manière de discuter qui porte sur l'environnement nécessaire à l'organisation des élections. Et nous disons, les négociations doivent porter sur cela. Parce que c'est ça le nœud de la crise.
Le troisième mandat n'est plus sur l'agenda ?
Absolument, il est toujours sur l'agenda parce qu'en fait, le troisième mandat, c'est une question qui est intimement liée au processus électoral. Nkurunziza, il ne sépare pas les deux. Il ne sépare pas le mandat, le troisième mandat ou le quatrième ou le cinquième d'un côté et les élections de l'autre. Il les lie intimement. C'est pour ça que Nkurunziza tient à contrôler le processus électoral. Le troisième mandat n'intéresserait pas Nkurunziza s'il ne contrôle pas le processus électoral. Parce qu'il sait très bien, très pertinemment, que dans des élections libres et crédibles, il ne pourrait pas passer. Je me réjouis que même le facilitateur a réalisé que maintenant le blocage se situe au niveau de Pierre Nkurunziza. Donc, je dois imaginer et je dois espérer que la démarche de Magufuli, c'était dans le sens de débloquer le verrou qui se trouve du côté de Nkurunziza, puisque l'opposition, elle, a déjà montré sa disponibilité à aller dans le processus de négociation. Et nous, de notre côté, non seulement on dit qu'on va y participer, mais on propose même une manière de rendre ce processus efficient et efficace.
François Nyamoya, un leader de l'opposition burundaise.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, ouverture ce vendredi à Abidjan des 8e Jeux de la Francophonie, un événement culturel et sportif qui va mobiliser l'attention de l'espace francophone pendant les 10 prochains jours. Des Jeux qui s'ouvrent sur fond de tensions militaires dans le pays. Mais les entrepreneurs sont déterminés à profiter des opportunités économiques dues à la présence des 4000 athlètes et artistes qui vont participer aux Jeux. Le point avec notre correspondante sur place, Narita Namasté.
Les 8e Jeux de la Francophonie s'ouvrent officiellement ce vendredi en début de soirée à Abidjan, en présence du président Alassane Ouattara, dans un contexte de série de mouvements d'humeur militaire. Ismaël Sanogo estime que le moment n'est pas opportun.
La francophonie est une tribune qui permet la communion de beaucoup de nations pour mettre en place une symbiose au niveau de la francophonie. Mais nous pensons que cela se déroule dans une atmosphère un peu délétère, parce que le pays même qui accueille, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, est actuellement en pleine ébullition. Et donc, cela fait que, en tant qu'Ivoiriens, nous jugeons que le moment n'est pas opportun.
Ismaël Sanogo reste pessimiste sur les retombées de ces jeux pour son pays.
La Côte d'Ivoire peut gagner dans un premier temps. Pour qu'elle gagne, il faut qu'il y ait l'adhésion de la population. Or, actuellement, la population est un peu apeurée, la population n'est pas contente, la population est un peu timorée.
Véronou Kouakou, coiffeuse, a une vision tout à fait inverse. Une vision optimiste de la francophonie économique, mais surtout à long terme pour son pays.
Les jeux de francophonie, c'est bon pour la Côte d'Ivoire, parce que quand ils vont finir de faire, les stades, les hôtels restent toujours pour la Côte d'Ivoire, ça peut aider la Côte d'Ivoire. Donc au moins, ce n'est pas du gaspillage.
La Côte d'Ivoire se servira de la grande visibilité qu'offrent les jeux de la francophonie pour mettre en évidence ses atouts. Les jeux d'Abidjan génèrent des avantages sur le plan économique, comme nous le confirme Roger Banco, styliste, qui a déjà confectionné plus de 1000 tenues avec des colorations traditionnelles.
Dans notre domaine, en tout cas aujourd'hui, nous sommes en train de boucler tout ce qui est vêtements et tout ce qui est vêtements à l'effigie de la francophonie. Donc je peux dire que c'est maintenant, en tout cas constant, que la francophonie est chez nous.
Le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara a exhorté les Ivoiriens à plus d'hospitalité vis-à-vis des délégations étrangères. Près de 4000 athlètes et artistes issus de 84 pays sont annoncés à ce rendez-vous sportif et culturel qui mobilisera 700 journalistes pour 500 millions de téléspectateurs. Narita Namasté à Abidjan.
Côte d'Ivoire, toujours en vue d'une réconciliation nationale, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ex-chef de la rébellion, Guillaume Soro, a demandé jeudi pardon aux Ivoiriens et à son principal adversaire du passé, l'ex-président Laurent Gbagbo, écroué depuis 2011 à La Haye, où il est jugé par la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin de pardon et de réconciliation, a déclaré Guillaume Soro. Je vais demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon à mes aînés et même au président Laurent Gbagbo, a ajouté le leader ivoirien à qui l'on prête des ambitions présidentielles. Au Niger, le maire de Niamey, la capitale, Hassan Seydou, a été révoqué jeudi par un décret pris au Conseil des ministres. Le communiqué gouvernemental lu à la radio d'État ne précise pas les raisons de cette sanction, mais la révocation a lieu une semaine après une visite de la ville par le président Mahamadou Issoufou. À la suite de son passage dans la capitale, le chef de l'État nigérien avait reproché aux responsables municipaux leur insouciance incompréhensible face à la grande insalubrité et au manque d'assainissement de Niamey. Et pour terminer, les États-Unis ont prévenu jeudi le Soudan du Sud qu'un nouveau plan de paix visant à consolider l'accord de paix non respecté de 2015 représentait la dernière chance pour Juba de mettre fin à la guerre civile qui divise le pays.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.